Chapitre 12. Nan pense mourir. Qui saura jamais pourquoi Nan, au contraire de ce qu'on peut coutumer la plupart de ses pareils, était républicaine? Comment s'était-elle défendue, parmi les cabarets les plus galants, de sucer le lait de ses opinions aristocratiques où excellent nos demi-mondaines? Fut-elle séduite par la théorie hasardeuse de l'égalité humaine, ou seulement par ce goût naturel de la licence qui a converti au régime tant de boulevards extérieurs? Peut-être son berceau fut-il enchanté par de vieilles barbes, et les vit-elle toutes petites tremper leur absinthe de larmes en disant des phrases sur le joug détruit des baguins de hasard, ou qui s'esclaffaient à la lecture de Boquillon? Toujours est-il qu'en ces jours boueux, il ne fallait point plaisanter Panama. Malgré que ce ne fût ainsi qu'on le dit lui avait expliqué qu'une vieille histoire de chapeau. « Vous savez, lui disait quelquefois Eliburu, que les victimes du 2 décembre vont beaucoup mieux. » Mais elle ne pouvait point rire d'objets aussi graves. Au moins de sa mère, et qui reste, au reste se vantait d'y avoir tenu la main jadis, ou le balai même, elle avait gardé une éducation religieuse longtemps inébranlable. Mais voici qu'enfin, par des gradations insensibles, Nan avait glissé à la libre pensée, devenue libertine et pour tout dire anticléricale, mais anticléricale à faire pleurer de joie Madame Gagneur, anticléricale comme une loge. Il est difficile de dire quelles influences lui avaient fait adopter une attitude d'esprit dont on peut tout au moins dire que l'élégance y a peu de part. Nan ne fréquentait guère les journalistes, et de pharmaciens, point. Peut-être avait-elle rencontré quelque israélite récemment converti. Cela suffirait à mettre au dégoût la religion la plus solide. Mais Nan ne le montra nulle part autant qu'à son lit de mort. Une maladie cruelle, rapide, s'abattit soudain sur mon ami. Tout son corps en parut comme ébranlé, ses lèvres pâlir, et la fièvre, venant disputer à ses nuits les quelques restes d'un sommeil que son mal ne dévorait pas encore, ne lui laissa bientôt plus que ce qu'il fallait de raison pour se sentir mourir. Madame Garbu, cette mère qui lui était si attachée, moins encore peut-être par les liens du sang que par ceux de la gratitude, nous attristait tous par un zèle touchant et maladroit. Tantôt, elle apportait des reliques que sa fille rejetait avec horreur. Tantôt, elle prêchait la vertu des simples, et les princes de la science étaient importunés de ses avis. La fièvre devint plus ardente. Nan commença de donner la nuit quelques signes de délire. Mais le jour, elle reprenait tout son bon sens et causait avec nous d'une humeur égale. Un peu amaigrie par le mal et si pâle qu'on eût dit sa figure taillée dans le bloc d'un ivoire sans tache, plus gracieuse dans la douleur qu'elle ne l'avait paru jamais dans le plaisir même, elle me sembla devenir plus touchante et comme l'occasion d'une tendresse. Mais elle nous affligea de garder en ce passage fatal l'âme incrédule qui convenait si mal à son sexe comme à sa condition. Et l'état de la malade semblait de plus en plus désespéré. Madame Garbu se décida enfin à lui parler de ses devoirs religieux. Elle le fit sans doute avec peu d'adresse, et c'est ainsi que Nan apprit qu'elle était perdue. J'arrivais à ce moment même pour la trouver en pleurs, mais elle devint tout aussitôt calme. « Mon ami, me dit-elle alors, il paraît que c'est fini. Quelques jours encore et je ne serai plus qu'une petite chose froide, à quoi vous ne penserez plus. Taisez-vous, Nan, d'abord vous n'êtes pas prêt de mourir et si jamais... »« C'est vrai, vous la regretterez un peu, votre amie Nan, qui a été si capricieuse avec vous. Mais vous aviez tant de patience. » Comme on est avec un enfant qui n'est pas le vôtre. Vous rappelez-vous de m'avoir recueilli tombant d'un omnibus? Et elle se met à rire comme autrefois, mais d'un rire faible et pour ainsi dire suranné. « Je voudrais vous demander quelque chose, » reprend-elle. « Vous savez qu'à tort ou à raison, je n'ai pas les idées de maman sur certaines choses, ni les vôtres. Mais puisque c'est comme ça, définitivement, faites au moins qu'on me laisse mourir en paix. Je vous en supplie, je ne veux pas de robe noire autour de moi. » « Eh bien, soit, lui dis-je, et la promesse me pèse un peu, je ferai mon possible, aussi bien dans les dispositions où vous êtes. » Mais le lendemain, Nan eut à supporter un autre assaut, et d'un côté imprévu. Comme je passais la plus grande partie du jour auprès d'elle, je me trouvais là au moment que sa mère lui apportait une carte sur laquelle était gravée Monsieur d'Artaxia, prêtre, et dessous écrit au crayon, de la part de la marquise d'Iscan. Ben, il faudra donc le recevoir, dit Nan avec résignation. Je croisais en effet dans le boudoir l'abbé d'Artaxia, personnage fort poussé par l'annonciature que je connaissais un peu. Sous la robe de laine blanche qu'il portait, par je ne sais quel privilège, et son chapeau de feutre gris clair à gland rouge, avec sa figure jolie et rose de levantin, c'était bien l'être théâtral et souple qu'il fallait à mon ami, celui d'ailleurs qu'on changeait de l'ordinaire des purifications délicates et qui même en avait reçu le surnom de papier d'Arménie. Il ne parut point étonné de me voir. « Je ne sais, » m'expliqua-t-il, « quel rapport il peut y avoir entre Mademoiselle Dunois et Madame d'Iscan. Toujours est-il que celle-ci m'a fait instamment prier de passer en cette maison. » Et de son pas onduleux, il entra dans la chambre de Nan. Quand il en ressortit une demi-heure après, « Je ne pense pas, » me dit-il, que ma visite ait été tout à fait inutile, quoique cette demoiselle semble avoir subi de bien terribles influences, mais je reviendrai. » Hélas, le soir même, l'état de mon ami empira tellement que toute visite de ce genre apparut bien désormais devoir arriver trop tard. Elle délira toute la nuit, agitée d'épouvantes nouvelles. À plusieurs reprises, elle regarda fixement le coin de la chambre en criant « Noctilus, la bête, la bête !» Delcher joua un rôle aussi dans ses hallucinations, et elle gémissait alors comme un enfant. C'était bien fini de ma pauvre Nan. Le célèbre écouteux docteur Z déclara le lendemain qu'il n'y avait plus rien à faire, qu'elle passerait la nuit, mais non pas le jour suivant. Nan elle-même se sentit tout près de sa fin, et elle s'occupa alors avec sa bonne grâce accoutumée de quelques souvenirs ailés pour des amis, sa sœur, ses neveux. « Vous, mon ami, me dit-elle, je vous donne tous mes miroirs. Si vous savez regarder à la nuit tombante, vous croirez me voir encore, et sans doute y reviendrai-je en effet pour vous sourire. « Mais je veux aussi, » reprit-elle, « garder quelque chose pour moi, c'est mon beau collier d'émaux verts et bleus. Et tu me le laisseras autour du cou, n'est-ce pas, maman ?» Madame Garbu ne sut répondre que par des sanglots. Peut-être est-ce là une bonne façon de ne pas s'engager avec les mourants. Le soir, et comme j'avais veillé deux nuits déjà, je rentrai chez moi, épuisé de fatigue. Ayant prié, au cas improbable, on constaterait un peu de mieux que l'on m'en fit avertir, pour me permettre de prendre un repos plus long. Mais il ne vint rien qu'un camarade qui monta me voir vers 11 heures. J'allais justement me rendre chez Nan. Nous redescendîmes et je l'accompagnai un moment. Le malheur voulut que l'Élysée fût sur notre route, et mon compagnon, en passant, s'abandonna à la plaisanterie qui égayait alors les Parisiens, c'est-à-dire qu'il ôta son chapeau de forme comme pour saluer, et en ayant contemplé attentivement la cime. « Mais il n'a rien du tout !» déclara-t-il d'une voix claire. Il sembla que cette mimique à laquelle tant de gens s'étaient jusque-là impunément amusés fut depuis la veille devenue inconstitutionnelle, car presque aussitôt des argousins en civil se jetèrent sur moi, et non sans quelques sourdes bourrades. « Tiens, tiens, c'est ça, pensais-je, des casseroles !» me conduisirent au poste prochain. Cependant, mon camarade, qu'on avait je ne sais pas pourquoi respecté, ayant pris un fiacre qui passait libre, disparaissait. Au bout de 4 heures environ, fort ennuyeusement ruminé en un malpropre petit cachot, on me conduisit devant le commissaire, et je pensais déjà qu'après une admonestation paternelle, ou tout au moins avonculaire, et le conseil de ne pas y revenir, il allait me faire relâcher. Mais il en fut bien autrement. « Monsieur, me dit ce magistrat d'une voix glaciale, ainsi parleraient les carafes frappées s'il plaisait à Dieu, des recherches faites chez nous, il résulte l'impression la plus défavorable, et je suis obligé de vous remettre aux mains de monsieur le procureur de la République. Monsieur le commissaire, répondis-je, c'est peut-être qu'on a découvert quelques bijoux dans un meuble ou bien de l'or monnayé. Et malgré l'étonnement où pourraient demeurer plongés vos hommes que tant de choses précieuses n'aient pas été amassées par un pique-poche, je crois pouvoir vous affirmer qu'elles me viennent de famille. Monsieur, répliqua cet homme, je ne m'attarderai pas à relever la façon dont vous vous moquez déjà de la justice gouvernementale. Vous aurez affaire désormais à plus haut que moi. » Là-dessus, m'ayant extrait du poste, on me conduisit en un bâtiment national beaucoup plus vaste. Je lus avec plaisir sur la porte « Liberté, égalité, fraternité ». Mais on me mit au secret presque aussitôt. Et cela dura 73 jours. Il était temps en vérité que cet état de choses cessa, le soir que la justice, ou l'appareil qui en porte le nom, jugea opportun de me renvoyer à mes chères études. Elle ne me donna d'ailleurs d'explications aucune, et moi-même je négligeais de demander l'addition, content, quoique un peu hébété encore, de me faire conduire chez moi par le premier fiacre que je rencontrais. Il portait le numéro à jamais béni de 452-94-79. « Monsieur, me dit mon valet de chambre en me présentant des cartes, il n'est pas venu une seule lettre, ni rien par la poste. C'est à croire. Oh, elles se seront égarées, voilà tout. Il arrive tous les jours qu'on ne reçoive pas de lettre de 3 mois. » Je vous prie de n'en pas accuser le gouvernement, n'est-ce pas, ni la police, ni la magistrature. Ce sont des corps où je ne veux plus compter que des amis. Là-dessus, comme il se faisait tard, j'allais dîner dans un restaurant très fréquenté où je ne rencontrais pas une figure de connaissance. Puis je fis un tour de boulevard et finis par entrer au bar du Munster Hotel. Une surprise m'y attendait. Parmi 5 ou 6, exactement 6, anglo-saxons, qu'à leur épilation excessive je connus américains, se tenait assise, aussi vivante qu'il lui était loisible, mon amie Nan. C'était bien elle, son col nu, ses yeux de pierre dorée, le rebouci de ses cheveux, et c'est avec son éternel sourire d'enfant triste qu'elle m'appela. Suivit une de ces présentations dont je n'ai jamais pu faire perdre la fâcheuse habitude. « Monsieur Pastisson !» Et elle enveloppa du même geste les 6 francs. « Puisqu'il faut pâtir, pensais-je, et je m'assis. » Mais comme je ne sais pas l'anglais, la conversation fut laborieuse. Après une infructueuse tentative de me faire entendre leur français, où Nan seul sans doute sait démêler ce qui lui est utile, l'un d'eux me parla quelque chose qui était, je pense, de l'allemand. Par politesse, je répondis en basque. Il eut l'air d'abord de comprendre, croyant peut-être que ce fut du Chipeway, mais l'erreur fut courte, et ils retombèrent dans un sextuple silence. Nan et moi, nous étant alors mis à causer de sa guérison imprévue, de ma prison, de mille choses, la demi-douzaine pastisson se leva, salua et s'en fut. Voyez-vous, me disait Anne, quand j'ai été guéri, et les médecins n'en revenaient pas. J'ai cru qu'ils allaient me faire un procès. Je suis tombé à d'autres tracas. Votre prison, d'abord, m'a toute chamboulée. Puis voilà tout d'un coup mes fournisseurs qui se déguisent en créanciers. Alors, ça n'a pas été drôle du tout. Ils voulaient faire saisir mes meubles, reprendre des bijoux, que sais-je. C'est Pastisson qui m'a tiré de là. Mais Nan, Pastisson, enfin, ils sont six. Mais non, me répond-elle avec candeur. Je vous assure que c'est toujours le même. Chapitre 13. Les noces de Nan. Bon Dieu, le bon Belge! Sans être fataliste, ni vouloir démêler en toute chose les mauvais desseins de la Providence, cette caricature de Dieu, a dit Nicole, on peut croire que M. Dieudonné le Marigot était destiné par son nom à un hymen inexorable. Vous comprenez, conclut Nan après m'avoir laissé entendre qu'elle tramait d'épouser ce Belge riche et industriel, un mendigot, n'est-ce pas, c'est un monsieur qui mendie. Eh bien, le marigot, c'est un monsieur qui se marie. Je veux dire qui se marie en juste noce. Même qui s'attarde un peu, Dieudonné. Ah, Nan, de juste noce, mais cela va vous changer beaucoup. Prenez garde de les faire craquer, au moins. Excellent, est-ce que j'engraisse? Et elle tourne sur elle-même, ainsi qu'elle a accoutumé quand elle se juge plus admirable. Sa toilette l'est aujourd'hui par la décence, la discrétion. À quoi le souci de M. le Marigot n'est peut-être pas étranger, car tous les poissons ne se prennent pas à la même boîte. Enfin, fortuné des Flandres, c'est contre vous, sans doute, que fut liée cette conjuration du drap et de la fourrure qui va du noir à l'auburn en passant par l'encre de Chine. Et si vous en tâtiez, Dieudonné, comme je fis tantôt dans le vestibule, vous sauriez combien c'est agréable, cette peau de bête à long poil. C'est contre vous encore que fut édifié ce chapeau aussi ténébreux que les projets de notre ami et qui fait une varangue sur votre front. Tout le haut de sa face en est noyé d'une ombre cendreuse où reluisent ses yeux d'aventurine, ses yeux qui ont l'air de penser quelque chose et qui ne pensent même pas à rien, ses yeux dont vous aussi, monsieur, après bien d'autres hélas, vous vous obstinez sans doute à découvrir le sens, à peupler le vide mystérieux. Tout de même qu'enfant, vous vouliez voir l'homme dans la lune. Mais vous ne regardez pas la peinture, dit-elle, car nous sommes dans une de ces petites expositions, éternelle revanche des aveugles, dont à chaque printemps il y a 1003 en France seulement. Merci, lui dis-je, le diable m'emporte si je sais ce que je suis venu faire ici. Ou plutôt, oui, je le sais enfin, c'est mon cœur qui m'entraînait vers vous. À ces mots, un rire léger voltige sur sa bouche. « Vous êtes gentil aujourd'hui, » répond-elle. « Je songe qu'il y a longtemps que je n'ai été vous voir. Vous demeurez toujours à la même place. » J'ai quelques raisons de ne pas recevoir Nan chez moi dans le moment. Je lui réponds avec autant de franchise, mais peut-être moins d'ingéniosité codicieuse. « Oh, certainement, ma chère amie, c'est-à-dire non. » Mon valet de chambre faisait sa première communion, ou plutôt sa fille. Alors il est tombé malade, et par économie, je me suis logé à l'hôtel pour ne pas être seul du côté de Saint-Sulpice. L'hôtel à Ken Peace, enfin je veux dire Man à Ken Peace. Connaissez-vous ça? C'est un hôtel très chic, un hôtel belge. J'ai entendu parler, dit mon ami d'un air vague. Et Saint-Sulpice, c'est bien où il y a des tours qui se flanquent les jambes en l'air. Enfin, où il y a un échafaudage pour les tenir. Il faut aller vous voir là. Oui, certainement, dès que vous aurez loge canonique. Les dames n'y sont pas reçues avant celui de 52 ans. Eh bien, s'écrie Nan, saisie, mais il y a donc que des curés là-dedans. Oui, ou quelques évêques aussi, avec leurs mères, leurs bonnes allemandes. Oh, écoutez, mon cher, c'est pas la peine de charrier. Si vous voulez pas qu'on aille vous voir, c'est pesé, on n'ira pas. Mais vrai, il fut un temps. Ah, c'est quand je vous aimais. Vous ne m'aimez plus? Sans doute, mais il y a la Clo, la petite Clo. Ni moi non plus. La Clo est une personne jeune encore qui était venue passer quelques heures chez moi il y a quelques mois. Elle s'est un peu attardée, comme la saison a changé. Elle n'ose plus sortir à cause que sa robe est trop claire. Vous êtes bête, mon pauvre ami. Chut, ne le répétez pas. Et puis elle n'est pas déjà si mal, la petite Clo. Si vous la voyez le matin faire des cabrioles sur le lit avec ses jambes blanches, il y a de quoi béer. Et je vais vous dire une bonne chose. Au lieu de venir chez moi, si vous voulez que je passe chez vous un de ces jours, on pourrait faire une promenade charmante que vous n'avez jamais faite. Pensez-vous? Ben, vous n'êtes jamais monté autour de Notre-Dame. Mais vous ne me parlez que de Tours, mon pauvre ami. Du reste, c'est vrai, je n'y suis jamais monté. Quand j'étais gosse, maman me promettait toujours ça, mais c'était pour le jour que je serais sage. Sans attendre jusque-là, mardi prochain, 2 heures, vous irait-il? Ça colle. Allez, là-dessus, je vous laisse. Rendez-vous avec Dieudonné au thé de la rue Martin. Au revoir. Adieu, madame. Et je reste tout seul dans le désert versicolore de l'exposition, parmi les vues de Venise et de Bruges-la-Morte. Faut-il que ces deux cités aient offensé le ciel pour être ainsi livrées aux peintres? Silencieux marais de Bruges où se mirent avec de pâles arbres maintes façades bien retapées, et vous, canaux vénitiens, vous trompes des mirlitons à l'ombre des palais roses, double royaume du moustique, quand donc une compagnie de tramway vous comblera-t-elle? Et nos voeux? Mais quelques jours après, c'était sur le dos glauque de la Seine que nous voguions, Nan et moi, en un de ces bateaux flancs clairs qui volent vers l'hôtel de ville. L'après-midi était bien parisien, l'air aussi acide que si on eut exprimé l'âme de 1000 citrons verts. On ne s'en pouvait garantir qu'en se tenant tout près de la machine, et alors on se grillait d'un côté comme Montezuma, ou en descendant dans les salons, et alors là, ça se sentait mauvais et l'on n'apercevait plus goutte du panorama dont j'avais vanté l'agrément à mon ami. Le charme de ces petites parties, c'est que c'est fait avec rien. Le beau travail que d'amuser une dame au prix de sommes énormes. Ici, où il faut tout tirer de soi-même, comme, pour employer une comparaison nouvelle, comme l'araignée, sa toile. Cependant, ma compagne contemplait, à travers son face à main et la grasse atmosphère, ces quais qu'elle n'avait jamais vus, coupés d'escaliers clapotants et qu'il inclinait vers l'eau le noir de leurs ramures. Plus loin, des maisons couleur de crème sale aux innombrables fenêtres. Plus loin encore, quelques dômes indistincts qui semblent flotter à ras des nues comme une montgolfière. et parfois le dessous enfumé d'un pont faisait se dresser en l'air les roses narines de Nan. L'un d'eux, qui venait vers nous, l'étonna par la masse et la majesté. Orné de masque, il s'appuyait d'un pied sur un jardin et supportait une statue équestre qui nous tournait le dos. Et Nan, soupçonnant que ce cavalier avait dû être quelqu'un de notoire, « Qui est-ce donc ? » dit-elle. « Bon, j'en ignore, mais, mon Dieu, que vous êtes joli aujourd'hui. » « Vous croyez qu'il ne le sait pas, cet employé avec sa casquette ?»« Que quoi ? Que vous êtes joli ? Mais non ! Qu'il ne sait pas qui c'est la statue ?»« Oh, c'est bien possible !» Un marin, Enan, l'interroge. « Té !» répond cet homme, qui a une barbe bleue de Prusse et l'accent marseillais. « Té ! C'est Henri IV qui le dit ici !» « Merci, monsieur. Voyez-vous, moi, à Paris !» Mais il est obligé de s'interrompre pour la manœuvre de l'accostage, et c'est ici que nous débarquons. En sorte que nous ne saurons jamais ce que lui a à Paris. C'est vrai, Nan, que vous êtes jolie comme tous ces jours-ci. Quand je songe que c'est monsieur le Marigot, avec ses 45 ans, qui va moissonner toutes ses roses, comme lui-même dirait, et tous ses lys. Quel âge avez-vous? 23 ans? Oh, quand vous aurez fini de m'acheter, vous savez aussi bien que moi que j'ai 30 ans. 30 ans, c'est de la folie. Vous en aviez tout juste 25 au dernier réveillon. Nan rougit. Il gravit d'un trait, sans paraître alourdi par son grand âge, l'escalier du quai. « Mon cher, reprend-elle, il y a tout un ordre de mensonges, comme me l'a fait comprendre Dieudonné, qui ne sont plus de mise chez une femme comme il faut. Mais c'est un perfide désenchanteur, ce capitaliste, avec son goût pour la vérité. Si on le laissait faire, il serait capable de changer les bêtes en hommes. Et voyez-vous, Nan, le jour où l'on ne mentirait plus, chacun de dégoût se réfugierait tout seul dans une île déserte. Vous-même, la première fois que vous le tromperez, votre Marigot, car vous le tromperez, n'est-ce pas ? C'est possible, mais si je le fais, répond-elle non, sans obscurité, ce ne sera pas rien que pour le plaisir qu'il le soit, ce sera aussi pour mon plaisir. D'accord, mais le soir de ce jour-là, croyez-vous que vous lui direz en vous mettant à table « Mon ami, je viens de vous faire cocu avec M. Adolphe Desuet de la grande maison de lingerie. » « Non. »« Mon cher, réplique Nan, cela prouve seulement qu'il y a aussi tout un ordre de vérité qui ne sont pas de mise chez une femme comme il faut. » À quoi elle ajoute « Ça, ça n'est pas M. le Marigot qui me l'a dit. » Entre-temps, nous voici au pied de la tour. Je prends 2 tickets à 0,50 l'un, car ces petites fêtes, pour modeste qu'en reste le train, ne sont pas tellement gratuites qu'on croirait. Et là-dessus, nous gravissons 2503 marches ou environ. Ouf ! Fait Nan, qui s'est fait porter en quelque sorte dans les 3 derniers quarts du parcours. Sur la terrasse, une aimable bise nous accueille, qui rachète l'aigreur par l'humidité. À nos pieds pleure Paris, avec des clochers, des toits qui percent la brume. Mais plus près de nous, toutes les pierres et la plateforme entre les deux tours, et le peuple pétrifié des monstres qui en ornent les abords, sont flammés noirs et blancs, comme on voit certains pelages. Et parmi les hyènes, les éléphants, les diables, il y a une image surtout qui étonne mon ami. C'est le démon qui, accoudé sur un coin de balustrade, contemple la capitale du péché avec une si cruelle goguenardise. Celui-là aussi, Nan voudrait l'identifier et comme personne ne me démentira. C'est, lui dis-je, Baal-Zébub, prince des mouches. Il ne doit pas, observe-t-elle, être très occupé de ce temps-ci, à moins qu'il ait aussi la police sous ses ordres. Justement, elle n'est pas loin. Mais comme il est laid, il me fait presque peur avec sa langue. Et frissonnante, elle s'insinue dans mon pardessus. « J'ai froid, dit-elle, embrassez-moi. »« Attendez un peu, Nane, il y a ici un mufle de gardien qui est toujours derrière les gens pour les pincer à ça. »« Il faut profiter quand il vient juste de repartir. » À peine ai-je mis ces paroles que le gardien projette à l'angle d'un mur son blaire grotesque. Mais comme je suis en train d'indiquer avec mon parapluie un invisible arc de triomphe, il bat en retraite déçu. Et j'en profite pour obéir aux ordres de mon ami. « Voilà, en voilà assez, dit-elle enfin. On s'en va ?»« Oh, je vous mettrai chez vous, si vous voulez, à moins que... »« À moins que... » que vous ne préfériez me mettre chez moi un petit moment. Et mademoiselle Clos, j'ai réfléchi. Figurez-vous qu'en voiture fermée, elle pourrait sortir sans scandale. Alors je l'ai renvoyée chez sa mère, changée de robe. Voulez-vous que je vous dise, mon cher, vous êtes un fumiste. Et mademoiselle Chose n'a jamais existé. Oh, il y a tant de gens nanes qui n'ont jamais existé. Mais voici une voiture. Cochez ! Quelques heures après, Nan ayant déjà remis jusqu'à sa voilette. Adieu, dit-elle. Les restes pour mademoiselle Laclos. Ah, s'ils étaient aussi bons que les morceaux que je laisse à monsieur le Marigot. Pourvu qu'il n'y trouve rien de manque ce soir. Marigot, ce soir, non. Mais vous pensez qu'il peut se baumer d'être enseigné à l'avance? Pour cette fois, je tiens au maire, mon cher, et au curé. Et aux filatures. Et aux filatures, oui. Et il suffit parfois d'une imprudence pour tout remettre en question. Les plans les mieux ourdis sont ceux que l'on base sur... Mais pourquoi vous mettez-vous à parler lune comme ça tout d'un coup? Enfin, lune ou pas, le voyez-vous me plaquant après dégustation? Ce que les petites camarades seraient folles de joie. Mais au contraire, tel que je vous connais, non, ne rougissez pas, que je vous connais encore, et c'est ce qui me tue, il me semble que vous ne pouvez que gagner à multiplier les points de contact. Et croyez-vous donc ces qualités qu'on aime à rencontrer chez sa bonne amie, enfin, je veux dire l'invention, le doigté, la gymnastique, savoir attaquer, prendre la pose, etc., tout cela convienne chez une épouse? Bon, je veux bien, moi, mais pour parler d'autre chose, le patient, comment est-il dans tout ça? Il marque pas mal, merci. Avec une redingote, toujours et une belle barbe où il passe des petits peignes. Il arrive aidé d'une serviette où il y a des montagnes de papier et qu'il ne retrouve jamais quand il s'en va. « Vous me l'avez caché !» dit-il alors d'un ton espiègle. « Non, mais je me vois jouant à l'objet trouvé avec ses quadragénaires. À la fin, on la dégote sous le canapé où il l'avait mise et il s'en va. » Enfin, seul. Oh, non, ne le croyez pas. Presque aussitôt, il revient, tire de sa poche, côté cœur, une petite chose froissée et triste, un bouquet de violettes de dessous, qu'il avait oublié de me donner. Il m'embrasse sur le front et s'en va. Mais pourquoi de dessous? Ah, voilà. C'est que j'avais été assez poirotte au début pour lui dire que je les aimais. Vous savez comme on dit dans les romans, Évidemment, je les aime de loin, sur les éventaires, ça fait des jolies taches, demi-deuil. À part ça, j'aime mieux deux louis de lilas. Ah, que je voudrais sentir les lilas à la campagne. Ce printemps qu'il faisait tiède et que j'ai passé avec vous en Victoria, par la rue du Petit Musc. Il y en avait en haut d'une muraille, vous rappelez-vous? Ah, comme je vous vois. Mais Dieu donné, depuis que j'ai dit ça, tout le temps, il m'en apporte des bouquettes de sous. Si nous sortons ensemble et qu'il aperçoive un marchand, de loin, il prépare ses deux sous. Et si le marchand n'a pas de violette à deux sous, mon cher, il n'en prend pas. Non, non, dit-il, 4 sous, c'est trop cher. Et il faut voir son air mutin. Espoir charmant. Moi, je n'ai pas qu'il soit avare, au moins un peu regardant, tout au plus, et plutôt par éducation. J'ai idée que son père n'a jamais été duc. C'est un mot? Non. Et ses billets de banque, il les met dans la doublure de son gilet, même qu'il voulait me faire voir. Mais comme je n'ai pas l'intention de l'entôler avant les noces... Du reste, il est en train de m'acheter une maison boulevard Raspail, un immeuble de rapport, pour que je n'entre pas en ménage les mains vides. Il ne tient qu'à vous-même, comme je lui en ai fait la remarque, d'y mettre quelque chose. Et quoi qu'il a répondu, l'homme du Nord? Ce que j'aime, il a soupiré, c'est votre simplicité. Et moi aussi, c'est ce que je préfère en vous, je lui ai dit. Avec ta bouche. Bon, d'ailleurs, je ne sais pas pourquoi je vous raconte tout ça. C'est un excellent homme qui a confiance en moi. Je ne voudrais pas qu'on le chine. Je l'aime beaucoup. Mais de ma vie passée, je ne lui ai pas tout dit. À qui avez-vous tout dit, jamais? Mon cher, il n'y a pas un homme dans ce cas qui resterait couché une minute de plus. Ah, Nan, il faut que je vous embrasse pour ce mot-là. Laissez-moi au moins relever ma voilette. Merci. Pour en finir avec M. de Larigot, je l'ai présenté à maman, à mon beau-frère. Ah, vous êtes donc rabiboché avec votre sœur? Il a bien fallu. Qu'est-ce que j'ai pas fait pour ce mariage? Jusqu'à aller à la messe. Vous allez à la messe? Ah, que je vous baise encore. Mais vous savez, toute votre messe, ça m'empêche pas de penser comme je veux. Ce serait dommage que non. Là-dessus, Nan, ayant promis de m'écrire, s'en va de ce pas olympien qu'il serait oiseux de décrire pour la 11e fois. Et depuis, je ne l'ai jamais revue. Mais elle m'écrivit, et 15 jours environ après ces propos que nous avions échangés, non sans résultat au sujet du mariage qu'elle fomentait, je reçus cette lettre qui me fit presque regretter de l'avoir si souvent traitée de sotte au-dedans de moi, et ainsi soupçonner que Nan prenait depuis quelque temps des leçons de style. Mon cher ami, ça y est, les bans se publient et nous sommes affichés à la mairie. Le sieur Georges Aristarque Dieudonné le Marigot, propriétaire industriel, épouse mademoiselle, oui, parfaitement mademoiselle, mademoiselle moi, sans profession. Ça lui a un peu couru d'abord de voir que je m'appelais Garbutte plutôt que Dunois. Mais, lui ai-je dit, je suppose que vous ne m'épousez pas pour mon nom. Et du reste, qu'est-ce que ça fait, puisque je prends le vôtre? C'est pas ça qu'il a fait, mais je me demande pourquoi vous en avez changé. Je vous l'ai dit 100 fois, si ce n'est pas une. N'en croyez rien, vous, je n'en avais seulement pas pipé. C'est parce que ma pauvre sœur avait un peu trop fait parler d'elle avant de trouver un électricien responsable. Et à cette époque, je me destinais à la carrière théâtrale. Et à théâtrale, j'ai dit... Ah, je vous demande pardon, je n'y pensais plus, a répondu cet honnête homme. Mais moi, j'ai gardé un air offensé et poussé pendant une heure des soupirs de veau qui a peur. Il faut prendre garde que tout ceci se passait chez moi. Au fond, j'avais envie de rire, à m'imaginer l'hérissement dès l'emploi, s'il m'avait entendu débiner la chaste jeunesse de Clotilde. Vous savez si elle y tient à son passé, n'ayant guère que ça à se mettre sous la dent, qu'elle a d'ailleurs un peu rare comme le cheveu. Mais c'est pas pour son charme que je l'aime. Après un siècle donc de ses soupirs et tout ce renfrognement qui me recroquevillait l'amour, il a plus tenu le filateur, il a filé. Et moi je le croyais dissipé déjà dans l'air pour quelques heures, que d'avance ma pensée dépensait en menu plaisir, en menu comme la bouche de primavéril, mais écoute s'il pleut. Est-ce qu'il ne revient pas au bout de 11 minutes environ? Avec cet air roucoule à lui vider un siphon dessus, et le sempiternel bouquet de violettes. Vous croyez peut-être, je lui ai dit, que les orchidées, ça salit les gants. Et tout l'après-midi, j'ai été comme une herse. Mais avouez aussi, mon ami, depuis 5 mois qu'il me courtise, à 3 bouquets par jour, en moyenne, ça fait 450 bouquets à 2 sous, soit 45 francs de fleurs. Voilà ce qu'on nomme sans doute le fleuretage. Eh bien, ça n'est pas assez. Et vous-même étiez plus magnifique à l'époque où j'habitais votre Garneau de cœur. Mais je ne vous écris pas purement pour vous conter ces ragots. C'est à vrai dire dans le but de vous demander quelque chose. Vous-même m'avez dit que la plupart des lettres de femmes n'en avaient point d'autres. Et en passant, croyez-vous que celles des messieurs ne soient toutes que pour offrir? Enfin, voici. Quand on se marie, il ne suffit pas, malgré le proverbe, d'être deux. Comme pour les duels, outre les combattants, il faut encore des témoins. Et comme pour les duels, il y a des gens que ce rôle enchante, d'autres non. J'ai peur que vous ne soyez de ces derniers. Et pourtant, j'ai besoin de vous, de votre bras, de votre signature. Car enfin, réfléchissez, qui prendrais-je? Et pensez-vous qu'il y ait tant de gens de votre genre avec qui, après avoir été au mieux, je ne sois pas resté au pire? C'est vrai qu'on a le droit aujourd'hui de prendre des femmes pour ça. Mais vous savez, vous, le correspondant de Mademoiselle Dunois déclare n'en rien savoir, que je n'en ai jamais aimé beaucoup l'usage. Quand même la mode a pu un temps l'imposer à mes contemporaines. Parmi tant d'autres choses non moins saugrenues, telles que la morphine, les cingalets, ou encore ces pièces de théâtre qu'on allait voir en bandeau et qui se passaient dans les pays froids. Et puis encore, qui prendre? Ah si, la marquise d'Iscan n'était pas au lit, oh, elle aurait marché, j'en suis sûr. Ses façons à mon égard ont toujours été si gracieuses que j'ai cru pouvoir la prévenir de l'événement. D'autant plus que ça doit lui faire plaisir que je me marie dans la chapelle du domaine de Saint-Hyères-le-Capiot, car c'est là que nous bouclons la boucle, mon cher. Une vieille terre à plus d'une lieue des ateliers, et venant de la mer à Marigot, qui était fille, vous me suivez bien, du comte des Ardennes ou des Ardennes, une bonne famille du pays. Mais enfin, vous voyez d'après tout ça que vous pouvez très bien venir. À la campagne, c'est jamais très cérémonie, je pense. Vous pourriez même passer 2 ou 3 jours d'avance à Saint-Hyères, où je serai. Dieudonné couchera à l'auberge, par convenance. Et me donner un peu votre avis sur la maison, sur le vin, sur les domestiques, sur ce qu'il y a à faire en général. Et quant aux préjugés, au respect humain, etc., qui interdit d'assister aux noces d'une personne comme moi, j'espère que vous êtes au-dessus de ça, malgré toutes vos bigoteries. Pour en revenir à Madame d'Iscan, elle est malade. Mais elle m'a fait un cadeau tout de même. C'est une cafetière en pierre. Je pense même qu'elle est de l'époque, car elle est dédorée, et de plus, il y a leurs armes, ce qui est d'une grande politesse ou d'une grande malice. Et on m'a donné bien d'autres choses. Mon vieil ami, monsieur de Malapert, vous savez, ce petit gris qui a 3 000 francs de dette et pour 1 million de bibelots chez lui. Il est venu me voir l'autre jour avec un air et un paquet bien enveloppé et m'a dit « Ma chère enfant, c'est la première fois que je me dessaisis d'un objet de mon cabinet. Mais vous feriez renier Dieu 4 fois. » Et là-dessus, il a démailloté son poupon. C'était quelque chose de petit, de sale. Ça ressemblait à un chandelier, à moins que ce ne fût quelque chose pour friser les cheveux ou pour couper les légumes. Et monsieur de Malapert a ajouté « C'est un ivoire du XIVe siècle, un moule de fauconnerie pour fabriquer des capuchons d'épervier. » Il le caressait avec amour. « La base est en os, c'est plus ancienne. » « Vous voyez, elle faisait sans doute partie d'un objet carolingien, similaire, qui aura subi une réfection partielle. Et promettez-moi, ma chère enfant, si jamais vous veniez à mourir et que vous n'en auriez pas l'emploi précis, de le léguer au musée du Louvre. » Ce que je fis en l'embrassant. « Ah, il y a mon coiffeur aussi, monsieur Larivost, dont les yeux sublimes vous amusaient tant. Oh, lui m'a apporté, devinez quoi ? Une grosse éponge, mon cher, mais grosse comme la gidouille du but. » Et dans quel but, lui ai-je dit, m'offrez-vous cette énorme plante marine ? Je pense qu'il était ivre, il m'a répondu. Je voudrais voir madame en faire usage. Alors je l'ai flanqué à la porte, mais j'ai gardé l'éponge. Oh, elle vaut bien 25 francs. Et comme dit Dieudonné, l'économie ne semble ridicule que chez les gens qui n'ont rien ou peu de choses. Et vous, mon ami, qu'allez-vous m'offrir? Quoique ce que j'aimerais le mieux, c'est votre présence, entendez-vous? Allons, cher clair de lune, laissez-vous faire. Vous êtes le seul, décidément, qui, amour à part, me convienne tout à fait au moral comme au physique. Je ne veux pas dire que vous soyez beau comme le jour, non. Mais enfin, au contraire du chandelier Malapert, vous ne semblez encore avoir subi aucune réfection, même partielle. Et pour tout dire, vous avez, précocement, je le veux bien, mais enfin, vous avez quelques-uns des agréments du soir. Vous savez entrer dans une chambre sans plus de bruit que le crépuscule? Vous êtes secret comme un puceau gris. Vous ne chantez jamais que durant votre toilette. Et quand vous vous asseyez sur un meuble, il ne fait pas de poussière, ni vous non plus d'ailleurs, chez les gens n'étant point crampons de nature. Quoi, avec tant de qualités, faudra-t-il me priver de vous? Venez, vous dis-je, venez 2 ou 3 jours d'avance. Et dois-je vous répéter que Dieudonné couche à l'auberge? Adieu, je vous embrasse, votre ami Nan. » Au reçu de cette agréable lettre, je tombais dans 1000 perplexités et une perplexité. Telle la branche caduque entraînée au fil de l'eau et dans ce jour, etc. La vérité, c'est que j'étais en grand deuil et qu'il n'y avait peut-être pas à la noce d'une horizontale prétexte suffisant à le rompre. C'eût été déjà beaucoup en temps ordinaire que d'aller jouer devant l'autel à l'oncle ou au cousin d'une dame toute blanche que l'on a si souvent tenue dans ses bras, vêtue à peine d'un peu de lin. D'autre part, l'approche de son mariage, c'était comme lorsqu'elle avait été près de mourir et le paraît à mes yeux des grâces du renouveau. J'aurais eu plaisir, en vérité, dans le beau domaine de Saint-Hyères-le-Capiot, à me montrer familier envers une hôtesse aussi belle. À l'heure même où le Mario aurait regagné son auberge à travers la boue des champs et l'innombrable betterave. Cependant le feu, favorable aux amants, eût souri dans la cheminée familiale à nos caresses, ou éclairé parfois l'appât un instant découvert de mon ami, du sanglant éclat de l'escarboucle. Ah, si au moins j'avais pu m'accepter de cette hospitalité que les 2 ou 3 jours qui précéderaient la noce. Puis c'était un jeu dangereux, à quoi Nan, soucieuse de ne point perdre cette grosse partie, sur une dernière carte ne se serait prêté peut-être que de mauvaises grâces. Et c'est en amour surtout que la façon de donner vaut mieux souvent que ce qu'on donne. En conséquence, je choisis de me dégager et lui écrivis la lettre suivante. Ma chère amie, c'est pour remercier et refuser, hélas. La faute en est à une tante, une vraie, qui m'est morte il y a 10 jours, le lendemain de cette ascension autour Notre-Dame, dont je n'oublierai jamais que nous en délassâmes chez vous la fatigue. Cette tante, je le répète, n'est point une fable, quoiqu'elle soit maintenant réduite à ne vivre que dans la mémoire des siens. Elle se nommait de son vivant Madame de la Fontmerlin, personne acariâtre et abandonnée au jansénisme. Nous étions au couteau depuis fort longtemps, ce qui la détermina sans doute à me léguer, au détriment de ses proches, tout ce qu'elle n'avait pas pu placer en viager. Cela fait encore une liasse, Nan. Quel moment prenez-vous pour nouer des liens légitimes? Mais vous sentez par vous-même combien il m'est défendu, un peu de temps encore, de me livrer à des plaisirs officiels. Celui de vous conduire à l'hôtel eût été vif pourtant, et surtout de vous en ramener épouse chrétienne, parée par le sacrement de quelques vertus nouvelles pour vous, j'ose le dire. Ce ne sera point une insulte, n'est-ce pas, de vous voir comme sous un jour nouveau, dès que vous aurez revêtu, parmi les autres caractères de l'épouse, cette retenue, cette pudicité qui enseignent à cacher de sa jambe ou de son épaule tout ce qu'une volupté matrimoniale et savante dérobe à la vue pour le réserver au sens plus précieux du toucher. Et pour parler plus précisément que ce galimatia, Nan, cela veut dire qu'il vous vaudra mieux une fois marié, si j'ai compris quelque chose à votre belge, porter au lit des chemises montantes et qui ne lui laissent point rassasier ses yeux. Craignez, croisard de la causerie et d'une couche défaite qui ne vous voilerait plus, cette même chemise roulée en turban et remontée jusque sous vos épaules ne laisse jaillir votre soudaine nudité telle une amande verte dont on presserait la gaine entre ses doigts. Il vaudra mieux aussi les choisir moins transparentes que celles où, dit-on, vous pensiez autrefois vous dérober et qui étaient à vos membres comme ce peu de brume couleur de perle que le printemps suspend autour d'un peuplier svelte et pâle. Contentez-vous qu'elles soient diaphanes, quelques-unes, et vous pareille alors à l'ébauche de Galatée que l'albâtre emprisonne encore. Au demeurant, choisissez les collantes, ces chemises, sévère, mais juste, voilà le point. Encore une fois, c'est à la province le toucher qui est le sens le plus vif, comme partout où l'hypocrisie aiguise ses curiosités que nous avons au bout des doigts, que celle de monsieur votre mari puisse reconnaître et solliciter son plaisir à travers la rigueur d'une Hollande où vous le braverez attentive. Car les jeux d'une amie qui s'ébat sous un linge mousseux, tel que la baigneuse dans l'écume, ce ne sont point plaisirs d'industriel. Celui-ci, s'il heurte à cette blanche armure, ou vous en veut tout de suite dérober que l'étroitesse du fourreau aidée par un petit écart de vos genoux lui rende difficile d'un toucher de la bord, l'envers et le plein. Si j'ajoute qu'ayant été épousé pour votre charme plutôt que vos vertus, Il faut éviter de vous montrer trop ménagère et que votre rôle ne va pas, chaussée de lasting et vêtue de pou de soie, surveiller les sauces. J'aurais tout dit, je pense. Oui, tels sont à peu près, ma chère Nan, les conseils paternels que mon rôle auprès de vous, si je l'avais pu remplir, m'aurait appelé à vous donner. Mais quel que soit le prix que votre indulgence y voudra bien attacher, ne la poussez point jusqu'à les vouloir faire admirer de monsieur le Marigot. Le sel lui en échapperait, je pense, et moins vous lui en direz en toute chose, moins vous lui en montrerez et lui laisserez voir même, mieux cela vaudra. Ne vous abandonnez guère. Craignez l'automatisme et trop de hardiesse dans votre langage ou votre costume. Enfin, n'oubliez jamais qu'il est votre mari. Gardez de lui dire au petit jour, le lendemain de vos noces, distraite et vous croyant encore à Paris, dans ce Paris où tant d'inconnus passent. Chérie, il serait peut-être temps de vous retirer, mon ami vient quelquefois de très bonne heure. Ou bien, en partant, si la porte est encore fermée, criez au concierge, « Docteur Durand, c'est le manucure du second. » Et du reste de tous ces avis, si vous préférez n'en suivre aucun, qu'à cela ne tienne, les choses n'en iront sans doute pas plus mal, car on a beau faire, les choses vont toujours la même chose. Peut-être penserez-vous aussi que mon rôle en toute cette affaire n'est pas de vous donner des conseils seuls. Et je vous entends bien, mais j'ai beau me creuser la tête, je ne sais que vous offrir. Ah, si ma tante était déjà réalisée, comme dit mon ami l'arriviste. Mais il y a des longueurs, du notaire au bijoutier. Alors, j'ai songé à vous envoyer mon dictionnaire Larousse. J'en suis dégoûté, il est plein d'erreurs, qui tel quel, pourtant, pourrait encore suffire à votre instruction. Mais peut-être que ça ne vous amuse pas beaucoup, le dictionnaire Larousse. Préférez-vous le Moléry ? Non plus. Quoi alors ? Vous savez bien qu'il ne me reste plus un bibelot passable depuis longtemps que vous avez pris le soin de n'en laisser chez moi aucun qui puisse tenter une autre femme. Ce qui est du sentiment le plus délicat, mais n'a pas laissé de faire un peu de vide sur mes commodes. Ah si, pourtant, j'ai quelque chose depuis peu que vous ne connaissez pas. C'est une aquarelle de Lon et George de la plus équivoque chasteté. Deux femmes qui caressent un paon blanc et se sourient. Oh, vous en seriez folle. Car cela fait rêver à tout un petit monde de féeries et de fêtes galantes, marionnettes aux réflexes ingénieux, cœurs de nèfles corrompus et glacés, et tant de beaux yeux meurtris, et puis des travestis, des négrillons, des macaques, des cacatoès, des carlins, Bergab ou Masulipatam. Là, des chambres parquetées en bois des îles répandent l'odeur du bain joint, de la jonquille et des longues chevelures. Ouvrez-en les fenêtres un soir. Vous trouverez qu'elles donnent sur de hautes serres parfois striées d'une pluie artificielle et parfumée, que du dehors le soleil couchant irise d'arcs en ciel fragiles, où des oiseaux en duvet, des papillons, mille fleurs, balancent leurs mélancoliques versicolores, où Colombine à la dérobée vient rafraîchir le bout de ses doigts dans la fontaine de rocaille aux larmes noires. N'aimeriez-vous pas bien connaître l'auteur aussi ? Comment cela figure, pareil à ces personnages menus, frugales, et que le soir il faut ranger dans une vitrine. Et du reste, ça ne m'amuse pas beaucoup que vous deviez dormir contre ce flamand. Mais quoi ? C'est la vie, comme disait un philosophe qu'on menait pendre. Vous au moins ne vous laissez point affliger par ces confuses cérémonies. N'y apportez pas la figure d'une amie que j'avais à la province et que je rencontrais un matin qu'elle se mariait. C'était à 7 heures de l'année où, dans les jardins, dont cette ville est enclose, l'odeur des tilleuls commence à effacer celle des glycines. Mon amie, elle, devait sentir la fleur d'oranger, pour peu que celle dont sa robe était ornée fût authentique. Mais là-dessus, j'avais des doutes. Toujours est-il qu'elle me jeta, comme je passais, le plus mélancolique regard d'oiseau en cage qui se puisse rêver. Et certes, j'avais de bonnes raisons de croire que ce n'était pas moi qu'elle regrettait. Mais ma vue lui rappelait peut-être quelques-uns des plaisirs de la liberté. Puisse la vôtre vous être légère à perdre. Et laissez-moi une dernière fois saluer vos lèvres, puisque désormais, ô Nan, vous ne serez plus que ma sœur. Hélas, n'était-ce point assez des Suédois ? N.